Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélave Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shavua Tov.
Shavua Tov.
Alors Rav Lemel, on arrive vers une nouvelle paracha. Et donc aujourd'hui c'est Yitro. Et dans Yitro, on retrouve les 10 commandements. Alors, dans les 10 commandements, vous voulez d'ailleurs nous inviter à une réflexion sur ce sujet-là. Et il y a quelque chose qui vous a interpellé tout particulièrement, c'est le dernier des 10 commandements. Alors, pourquoi ? Bah parce qu'on se dit que le dernier des 10 commandements, après une annonce pareille, ça doit être quelque chose d'énorme, quelque chose qui peut, je sais, résumer les 9 autres, quelque chose qui peut, on imagine quelque chose de très important. Et qu'est-ce qu'on voit ? Tu ne convoiteras pas. Or, tu ne convoiteras pas, c'est sûr que c'est pas une bonne chose, mais bon, être un peu jaloux, avoir envie de ce que veut l'autre, il suffit d'une pensée pour ça, c'est bah, pourquoi est-ce que ça, c'est le fondement, tu ne convoiteras pas, qui résume et ce qu'on appelle les 10 commandements, mais en fait, il faut dire Aseret HaDibrot, et finalement le judaïsme.
C'est vrai que ces 10 paroles qu'on a prononcées, donc, on voit une forme de crescendo. Anochi Hashem Elokecha, tout d'abord le fait que Dieu est l'unique, c'est le créateur de l'univers. Après, ses interdits, ses mitzvot, ses commandements positifs, le respect du Shabbat, le respect des parents, l'interdiction de voler, l'interdiction de tuer. Et puis, on arrive en effet avec ce l'otach mode, tu ne convoiteras pas. Et alors, ce qui est très très curieux là-dedans, c'est quoi ? C'est que l'otach mode, concrètement, ça veut dire quoi ? On est en train de dire « tu ne convoiteras pas ». Et donc, dans toutes les autres mitzvot qu'on voit précédemment, il y a une notion, alors sur les premières bien sûr, cette croyance qui est un concept, qui est une notion qui en effet dans l'esprit, mais qui doit se traduire d'ailleurs dans le monde des actions, mais sur le reste, le respect des parents c'est très concret, le respect du Shabbat c'est aussi extrêmement concret, dans tous les sens, que ça soit dans la vigilance par rapport à la transgression, que ça soit dans les actions positives du Shabbat, ne l'oublions jamais. Et ces vigilances par rapport à ne pas tuer, ne pas voler, oui, en effet, mais ne pas convoiter, convoiter a priori, c'est dans la tête. Et pourquoi la Torah nous interdit-elle de ne pas convoiter, c'est-à-dire de ne pas désirer quelque chose que l'autre a ? Alors, on va tout d'abord ici faire un premier point. Cette dernière des mitzvot, ce dernier des 10 commandements, des 10 paroles, on va le mettre en phase au fond avec le tout premier. Si on réfléchit, quel est le tout premier des Aseret HaDibrot, des 10 paroles, des 10 commandements ? C'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, c'est-à-dire se rappeler que, en effet, il y a un créateur de l'univers, ce créateur de l'univers qui va nous révéler la Torah, et donc c'est la notion de Emouna, de foi profonde qui doit nous habiter. Or, si on réfléchit un instant, si nous sommes convaincus au plus profond de nous-mêmes que l'univers a un créateur, ce qui est évidemment du domaine de l'évidence, et que ce créateur-là, eh bien, s'occupe de la totalité de sa création. Parce que rappelons-nous que le pharaon d'Égypte, lorsqu'il disait « Qui est Dieu ? Je ne le connais pas et je ne renverrai pas les enfants d'Israël », il disait « Bon, il y a peut-être un Dieu créateur, comme dirait l'autre « Why not ?» mais je ne le connais pas, il n'est pas présent dans son univers. Le monde fonctionne de la manière dont il fonctionne et de toute façon, je ne renverrai pas les enfants d'Israël. Il n'intervient pas dans l'histoire, il n'est pas présent. » Et justement, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle est là pour nous rappeler « Oui, il y a un créateur de l'univers. Oui, en effet, il est présent dans son univers. Oui, il intervient et il est présent. » Et évidemment, ça nous renvoie à notre responsabilité par rapport à nos actions. Donc, si on est dans cette croyance profonde, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi convoiter ce que l'autre a ? Au fond, si nous devrions l'avoir, nous l'aurions. Et à partir de cela, eh bien, cette interdiction de convoiter est là peut-être en premier lieu pour nous rappeler l'importance de renforcer profondément notre émouna, notre foi dans le créateur de l'univers. Savoir qu'en effet, c'est lui qui est présent dans le monde et que nos actions, évidemment, sont déterminantes, mais ça ne sert à rien de vouloir prendre ce que l'autre a. Et cet interdit de convoiter, eh bien, ce n'est pas juste voir un bel objet chez l'autre et se dire « Ah tiens, il est sympa, j'aimerais avoir le même ». Ça, ce n'est pas l'interdiction de convoiter. Imaginez, vous allez chez quelqu'un, vous voyez un beau fauteuil, vous voyez un bel objet, vous dites « Ah, c'est super, ah ben j'aimerais bien avoir le même ». Mais évidemment, vous n'avez pas envie de vous approprier celui qui appartient à l'autre. Dans ce cas-là, vous n'avez pas transgresser cette interdiction de convoiter. Convoiter, c'est se dire non, je ne veux pas que ça soit chez lui, je veux que ça soit chez moi. C'est comme quand on dit par rapport à l'interdiction de convoiter la maison de l'autre. Sa maison, c'est sa maison, elle a une adresse, elle est là, elle est unique. Et la convoiter, c'est vouloir la posséder pour cela. Pour nous, pardonnez-moi, je suis désolé, c'est vouloir la posséder pour nous. Et même être prêt à tout faire pour l'avoir. Quelqu'un qui, dans sa tête, se dit « il faut absolument que je lui achète sa maison ». Alors, bien sûr, si l'autre est vendeur, a priori, il n'y a pas de problème, c'est du business. Mais sinon, si on est là et on essaye de mettre en place tous les systèmes possibles pour pouvoir s'approprier ce qui est à l'autre, là, en effet, eh bien, on rentre dans cette interdiction de convoiter. D'ailleurs, ne l'oublions pas, lorsque quelqu'un pousse une autre personne à lui vendre un objet qu'elle ne veut pas lui vendre, même si elle paye plein pot, eh bien, pour la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, derrière cette idée-là, et on va aller un tout petit peu plus loin, eh bien, en premier lieu, c'est cette notion de Emouna, c'est cette notion de confiance profonde, de foi en Dieu que nous devons avoir et nous devons développer, et aussi, évidemment, respecter ce qui appartient à l'autre. Si c'est à l'autre, c'est que c'est à lui. Ça veut dire qu'il a quelque chose à faire avec et nous ne devons pas être là, nous, pour pouvoir considérer que ce que Dieu a accordé à une personne, eh bien, cette chose-là ne doit pas être chez elle, mais doit être chez nous. Et puis, en second temps, derrière cette notion de l'otachmod, eh bien, existe encore d'autres choses. Tout d'abord, une lecture très intéressante que peu connaissent, c'est l'otachmid, ce qui veut dire « ne sois pas convoitable ». Et en effet, nos maîtres nous disent que, de la même manière que nous devons faire attention de ne pas convoiter ce qui est à l'autre en voulant nous l'approprier, eh bien, nous devons faire attention de ne pas être convoitable, c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'il faut pour que les gens aient envie de prendre ce qui est à nous. Traduction, soyons, allez, on va dire un tout petit peu plus discret parfois. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, eh bien, on peut oublier ce que la Torah nous propose. La Torah nous dit oui, fais attention, bien sûr, tu vis avec ton standing, tu vis avec les moyens que Dieu t'a donnés, c'est sûr, mais c'est comme dans toute chose, il faut savoir garder la mesure. Et puis, au-delà de ça, dans cette notion de l'otachmod se pose la question de, mais au fond, pourquoi ai-je envie de cette chose ? Soyons bien clairs, si j'en ai réellement besoin, je l'aurais déjà acheté. Évidemment, lorsqu'on a besoin de certaines choses, eh bien, on les achète. Évidemment, on espère que Dieu nous donnera toujours à toutes et à tous, sans exception, les moyens d'acheter ce dont nous avons besoin, voire même parfois ce petit superflu, mais qui nous fait plaisir, c'est sûr. Mais si c'est parce que tu le vois que tu le désires, ça veut dire qu'au fond, tu n'en avais pas besoin. Seulement, ah, maintenant je le vois, ah, je le veux. Et ça nous renvoie peut-être à cette réflexion de Ézéhou Achir à sa mère Berchelko. Quel est l'individu qui véritablement est riche ? C'est celui qui est heureux avec ce qu'il a. Alors, évidemment, nos maîtres, lorsqu'ils disent cela, eh bien, ne font pas du tout l'éloge de la pauvreté. Ils nous disent tout simplement, mais regarde déjà ce que tu as, tu es bien avec. Alors pourquoi tu désires encore cette chose ? À part ce que tu l'as vu, mais si tu ne l'avais pas vu, tu ne l'aurais pas désiré. Si tu ne l'avais pas vu, tu n'en aurais pas eu envie. Et donc, ça pose une question qui va encore un petit peu plus loin. C'est la notion du regard. C'est notre regard qui est source de convoitise. On le dit d'ailleurs tous les jours dans le schéma. Eh bien, velotaturu achare levafrem vachare nechem, de faire attention, de ne pas nous détourner après notre cœur et nos yeux. Le regard, eh bien, remplit sa fonction qui est de voir. Et puis après, halev, chomed. Et c'est intéressant de voir que nos maîtres utilisent ce terme halev, le cœur, après chomed, désir, l'otachmod. Pourquoi ? Parce que nous avons vu les choses. Parce que peut-être on oublie parfois de voir tout ce que l'on a. Parce qu'on considère que ce que l'on a, c'est devenu normal. Et donc, on n'y accorde plus d'importance, voire même on ne l'apprécie plus. Et donc, Ce sont les choses nouvelles que nous allons voir qui vont devenir pour nous source de désir. Et en dernier lieu, rappelons-nous aussi de cette idée fondamentale que développe entre autres le Rav Dessler. Vous savez que dans la vie, on a deux options. On peut être de ceux qui cherchent à donner et ceux qui cherchent à prendre, soit l'un, soit l'autre. Alors, il y a des gens qui ne cherchent qu'à prendre, mais qui vont donner de temps à autre parce que ça leur fait plaisir. Mais quelqu'un qui est sans arrêt en train de réfléchir à ce qu'il peut apporter aux autres, eh bien, n'est pas préoccupé de manière constante par ce qu'il peut ramener à lui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il voit une chose chez quelqu'un, il est content que cette personne la possède. Ça lui fait tellement plaisir de voir que cette personne a quelque chose de bien pour elle. Et évidemment, son état d'esprit ne sera pas de se dire « mais j'en ai envie ». Et surtout, surtout, rappelons-nous, dans le cadre de cet interdit, « je ne veux plus que cette chose soit chez l'autre, je la veux pour moi ». Je veux me l'approprier, au fond, désapproprier l'autre pour pouvoir moi-même avoir du plaisir avec cette chose. La Torah donc nous rappelle à la fin de ces 10 paroles l'importance fondamentale, un, de cette émouna, de cette foi profonde dans le Créateur de l'univers. Deuxièmement, la nécessité de se rappeler Ezehu Ashir à sa mère Bechelko, quel est l'individu qui est riche. C'est celui qui a décidé d'être heureux avec ce qu'il a, et ça ne veut pas dire l'éloge de la pauvreté, comme je disais tout à l'heure, mais être content. Troisièmement, bien réfléchir, si je ne l'avais pas vu, eh bien, je n'en aurais pas éprouvé le besoin. Donc, est-ce que véritablement, c'est quelque chose qui m'est nécessaire ? D'ailleurs, vous savez très très bien qu'aujourd'hui, toute la force de la publicité, c'est justement de créer et d'amener les gens à être dans ce désir. Alors, bien sûr, ne transgresse pas la balle interdiction de l'Otar Mode, parce que ce sont dans les magasins, ces objets sont là, à disposition de tout le monde, mais on met en valeur au maximum pour que le regard, voyant les choses, eh bien, considère que maintenant que je l'ai vu, alors j'en ai absolument besoin. Essayons peut-être de repenser en tout cas notre rapport de manière beaucoup plus vaste à la consommation à travers ce qu'évoque cet interdit de l'Otar Mode pour en effet vivre une réelle achiroute, une véritable richesse.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shavua Tov.
Shalom Aleichem, Shavua Tov mon cher Bernard.
Alors, on vient de le dire à l'instant avec Rav Lemel, le don de la Torah, les 10 commandements, c'est évidemment, c'est l'acte fondateur. Et donc, par conséquent, notre paracha, c'est la paracha. Beaucoup le savent, à commencer par les Tunisiens, excusez-moi ce trait d'humour. Et donc voilà, donc c'est vraiment, c'est la paracha par excellence. Bah pourquoi ? Et qu'est-ce qui se joue ici ? Et pourquoi ? Voilà, c'est aussi important que ça à vos yeux et bien sûr selon les Chachamim que vous allez nous faire partager.
Alors effectivement, on rentre là dans la paracha de l'année, c'est la paracha du don de la Torah, Yitro. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans nos relations avec les nations du monde lorsque la Torah nous a été donnée ? Pour nous, on sait ce qui s'est passé. Hachem nous a donné la clé du projet. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a expliqué, voilà, je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner la Torah, pour vous devenir le peuple qui va porter la Torah dans l'espace, dans le temps, dans l'histoire. Vous allez la vivre pour vous, vous allez l'incarner, et vous allez l'exprimer au travers donc de votre vie quotidienne et votre vie nationale. Ça, c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Umot HaOlam, avec les nations du monde ? Alors ça, je nous dis que la montagne sur laquelle la Torah a été donnée s'appelait le mont Sinaï, mais en vérité, ça n'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est le Har Horev. Là, il s'appelle Sinaï. Et nos sages disent, c'est parce que Yarda Sina Laolam. La haine est descendue dans le monde. La haine antisémite, l'antisémitisme, la haine du peuple juif est descendue le jour où nous avons reçu la Torah, ce qui est très surprenant. Le jour où on reçoit la Torah, c'est un jour de lien, de symbiose avec Hachem, et donc un jour de bracha, de bénédiction, qui devrait susciter en quelque sorte une espèce de grâce. On devrait trouver grâce aux yeux des nations, grâce à la bénédiction qu'Hachem nous donnerait en quelque sorte par le fait que nous recevons la Torah. Donc il faut comprendre ce midrash. Le midrash se termine en disant « Shayu mekanim b'am Israël ». Les nations du monde ont jalousé à Israël. De quelle jalousie s'agit-il ? Alors, il faut savoir que la Gemara nous dit que Hachem a proposé la Torah à l'ensemble des nations du monde et que la première chose qu'elles ont fait, ça a été de poser des questions. Alors qu'Am Israël a dit « Naaseh v'nishma », nous acceptons complètement la Torah. Il faut expliquer un petit peu ce midrash. Lorsqu'on dit que les nations, Hachem a proposé aux nations du monde la Torah, ça n'est pas pour dire qu'il est venu taper à la porte en disant « Bonjour, je suis Hachem, est-ce que vous acceptez ma Torah ?» En fait, ce qu'il nous est dit ici, c'est que toutes ces nations avaient une prédisposition naturelle à accepter la Torah. En quelque sorte, sur la ligne de départ de l'histoire, sur la ligne de départ sur le plan spirituel, tout le monde peut recevoir la Torah. Et de fait, cela s'incarne dans le fait que le peuple juif n'est pas une race. On peut se convertir, on peut devenir juif. Il n'y a pas d'interdiction d'accéder au judaïsme et d'accéder au peuple juif. C'est ouvert pour toute personne qui veut sincèrement y entrer. Et en fait, au moment où la Torah nous a été donnée, eh bien, sur la ligne de départ, en quelque sorte la ligne de départ historique et spirituelle, tout le monde peut accéder à la Torah. Tout le monde peut accéder à la Torah. Mais nous avons commencé à travers Misraq et Yaakov, qui eux ont fait un effort supplémentaire. Et en fait, le sens de ces gemaras, de ces textes qui nous disent que la Torah a été proposée à l'ensemble des nations du monde, en fait, pour le traduire en français, il faudrait dire tout le monde était sur la même ligne de départ. Mais il y en a un qui a été plus loin que les autres. C'est Abraham. Puis un autre, Yitzhak. Puis un autre, Yaakov. Puis ses descendants, puis le peuple juif. En quoi il a été plus loin? Le peuple juif, au moment où il a reçu la Torah, n'a pas posé cette question. Il a accepté la Torah. Le peuple juif a dit « Naaseh benishma ». Nous allons accomplir cette Torah, et au travers de son accomplissement, nous allons la découvrir, nous allons l'explorer, et nous allons en comprendre les ressorts, les principes. Cette conduite-là est une conduite qui n'est pas, entre guillemets, humaine. Tout individu auquel vous proposez, en quelque sorte, un texte de loi, un texte de comportement, un texte qui va exiger de vous un certain nombre d'efforts sur le plan personnel ou collectif, commence d'abord par poser des questions. C'est l'attitude humaine la plus logique. Mais Amisraël n'a pas fonctionné selon cette règle humaine logique. Il a fonctionné selon une autre règle, qui est la règle du lien. Hachem, le créateur du monde, vient et propose un lien. Il propose de connaître son projet. Il propose de véhiculer son projet. Et Amisraël, qui descend de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce peuple juif-là, qui va recevoir la Torah, et qui ensuite va rentrer en Eretz Israël, qui ensuite va vivre en Eretz Israël et va être expulsé à deux reprises d'Eretz Israël, puis qui va être disséminé dans les nations du monde et qui aujourd'hui revient sur sa terre, ce peuple-là va accepter cette logique. Cette logique-là n'est pas intellectuellement concevable. Elle ne repose pas sur les règles habituelles de la conduite d'un intellectuel, d'une personne qui réfléchit. D'abord, on pose des questions, ensuite on adhère. Et le peuple juif a dit non. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont adhéré, ils ont adhéré à des périodes dans lesquelles on leur promettait des choses qui n'étaient pas encore réalisées. Ils n'ont pas vu la réalisation des promesses qui leur étaient adressées, à savoir que Israël serait à eux, la terre d'Israël, etc., etc. Mais malgré tout, ils ont avancé dans l'histoire avec émouna, avec foi, avec une confiance absolue en Hachem. Et donc, Israël reçoit la Torah, et donc la jalousie s'installe. Nos sages disent, la jalousie va s'installer du fait qu'Israël fait ce pas supplémentaire. En fait, on est tous sur la ligne de départ, mais à un moment donné, il y en a un qui fait le pas qu'il faut faire. Et là, la jalousie se déclenche. Quand on parle de jalousie, on parle toujours de gens qui sont au départ, qui ont les mêmes possibilités. Un homme qui vient d'ouvrir une épicerie ne peut pas jalouser Bill Gates. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas sur la même ligne de départ. Par contre, quelqu'un qui serait sur la même ligne de départ pourrait avoir de la jalousie. Lorsque nos sages nous disent qu'il y a une jalousie, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, il y avait la même possibilité pour tout le monde, sinon on ne peut pas être jaloux. Et donc, cette haine va s'installer dans les tréfonds, dans le subconscient des nations du monde. À l'heure où j'enregistre, on n'a pas encore le résultat du procès de la CPI à La Hague contre ce procès antisémite, ce procès de la haine des nations du monde contre le peuple juif. Vous vous rendez compte qu'on est dans une situation aujourd'hui où vous avez l'ensemble des nations du monde qui vont juger un peuple qui a été agressé par un pogrom fait par des cannibales, des sauvages, des nazis islamistes, des gens qui ont assassiné, tué, dépecé, qui se sont attaqués à des cadavres, qui ont une idéologie génocidaire et mortifère. Ce peuple ne fait que se défendre. Et ce peuple est jugé par les représentants des nations du monde qui viennent et qui lui disent « Vous êtes les fautifs ». Il n'y a pas plus grande expression de haine que celle-là. Et donc, cette haine qui s'installe à partir du moment où Israël reçoit la Torah, elle est posée dans les tréfonds, dans le subconscient, dans les profondeurs, et parfois même, et aujourd'hui de manière plus générale, exprimée de manière ouverte. Mais elle ressort, en fait, au départ de cette idée que le peuple juif est un peuple qui, en fait, défie les lois de l'ordre intellectuel et donc, par la suite, les lois politiques, etc. Comment ça se fait que vous êtes encore là? Comment ça se fait que vous êtes encore là? Comment ça se fait que vous êtes encore là? J'avais un ami, une fois, qui a couru à Francfort pour attraper un avion et l'avion qu'il avait pris était arrivé en retard, et puis il devait courir pour prendre un avion pour Israël. Il est accueilli par un type de la sécurité, un Allemand, qui lui dit, mais vous ne devriez pas être là, vous. Et je lui dis, écoutez, il y a des phrases qu'un Allemand ne doit pas dire à un juif. D'accord. Il dit, je suis là, je suis là. Il est monté dans son avion pour partir en Israël. On ne devrait pas être là. On ne devrait pas être là. D'après toutes les lois sociales, politiques, géopolitiques, on ne devrait pas être là. Et on est encore là. Et ça, c'est une insulte au bon sens. D'accord. Et donc, c'est ça, finalement. Cette haine est descendue. Alors, je vais terminer sur une note positive. Est-ce que ça veut dire que tout le monde nous déteste? Pas du tout. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem a placé au bon endroit les gens qu'il faut et nos amis qui vont nous aider au bon endroit. Oui, des millions de non-juifs nous aiment et nous apprécient. Oui, des millions de non-juifs nous apprécient et aiment le judaïsme, aiment Israël, aiment le peuple juif. Il y a des amis du peuple juif. Mais il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que il y a dans la dimension, et c'est ça qu'il faut comprendre, il y a dans la dimension de la survie du peuple juif quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer. Et ça ne veut pas dire que tout le monde nous déteste. Il y a beaucoup d'habits pour le peuple juif, beaucoup de gens qui nous défendent et beaucoup de gens qui sont là au bon endroit et qui ont fait tout ce qu'il fallait pour nous et qui continueront de faire tout ce qu'il faut pour nous. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose d'irréductible dans la distance qui s'installe entre l'aventure du peuple juif et ce que l'on peut concevoir sur le plan intellectuel et même sur le plan politique, sur le plan idéologique. Cette aventure ne relève pas de la logique humaine, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est une situation très simple, c'est que dans la situation qu'on vit aujourd'hui, il y a, bah oui, effectivement, des choses que le peuple juif doit faire, se défendre. Mais assez bizarrement, ce qui va être la clé de son sauvetage, ça va être la Torah, ça va être les mitzvot, ça va être la tefila. Un Israël doit faire, on doit toujours faire un certain nombre de choses pour se nourrir, pour se défendre, pour vivre. Mais la clé, c'est la tefila. J'enregistre aujourd'hui à Toubishvat. Les gens écouteront cette émission un petit peu plus tard. C'est le jour où on prie. En fait, le juif prie tout le temps. Le juif est quelqu'un qui prie. Et la prière, assez bizarrement, c'est la force de la bouche. Qu'est-ce que la bouche peut contre un fusil? La bouche peut quelque chose contre un fusil. C'est la tefila qui nous sauve. C'est la tefila qui est l'instrument de la survie. C'est quelque chose qui n'est pas dans de la logique politique. C'est la logique spirituelle pure et simple. Voilà. Shavua Tov à toutes et à tous, qu'on entende des bonnes nouvelles et que Hachem nous délivre et nous sauve et nous épargne toutes les souffrances et qu'on entende des joies et qu'Am Israël soit joyeux et heureux sur sa terre et dans le monde. Amen.
Ramon Dechai Biton, bonsoir à vous et Shavua Tov à Jérusalem. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors Rav Gueh, vous voulez, à l'occasion de cette très belle paracha de Yitro, donc, essayer de réfléchir avec nous sur l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants.
Tout à fait. Dans le chapitre 1 et le chapitre 2 du schéma, d'accord, on parle là-bas avec Shinantam Levanecha. Donc deux versets qui rappellent l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants. Et évidemment, nous l'avons reçu au Sinaï, mais le but de cette réception, de cette Kabbalat à Torah du Sinaï, c'est évidemment pas de la garder pour nous, mais de la transmettre. Et d'où l'importance de choisir des écoles, des rabbanim, des enseignants, et de l'enseigner nous-mêmes si on est capable. Et il faut savoir que cette connaissance de Torah chez nos enfants est d'une première importance, évidemment, pour qu'il reste dans la Torah, mais je veux raconter une histoire qui va nous faire comprendre que c'est véritablement une sorte de passeport d'entrée directe au Gan Eden, comme je vais le raconter à travers une histoire qui va peut-être, vous aurez du mal à la croire, mais on peut vérifier, puisque cette histoire a à peu près une quarantaine d'années, et les personnes concernées sont toujours vivantes, et je peux même vous donner leur adresse. Alors on va tout de suite la raconter, c'est en fait une histoire, comme je vous l'ai dit, qui s'est passée entre 35 et 40 ans. On est dans une école à Petah Tikva. Cette école s'appelle Sheirit Israël. Et dans cette école, deux frères jumeaux, Yair et Ariel, rentrent dans cette école, mais ce sont des enfants qui viennent d'une école non pratiquante, à Kiryat Ono, c'est là où ils habitent. Et là, tout d'un coup, il y a un changement d'orientation dans la famille. ils vont tous les jours faire le trajet Kiryat Ono jusqu'à Petah Tikva pour intégrer cette école religieuse dans laquelle on enseigne la Torah. En fait, pour expliquer la raison pour laquelle il y a eu ce changement, c'est tout simplement lié à l'histoire de la famille, une histoire tragique qui s'est passée quelques mois après, juste avant ce que je vous raconte. Cette famille est une famille israélienne qui est allée faire donc une découverte des États-Unis. Donc elle est en tioul, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire une promenade, une connaissance au voisin des États-Unis. Ils sont dans une voiture, donc il y a le papa, il y a la maman, il y a deux frères jumeaux qui ont 8 ans et demi et une petite fille de 2 ans et demi. Le papa est en train de conduire, mais il ne va pas vite. Mais il se trouve que ce jour-là, il y a de la neige. Et il tombe beaucoup, beaucoup de neige. Il y a une tempête de neige. Donc il a beaucoup de mal à voir ce qu'il y a devant lui. Il a du mal à voir la route. Et il y a un tournant qu'il ne voit pas. Donc il continue tout droit et la voiture va tomber de 200 mètres. 100 mètres de dénivelé. Elle est bloquée par un arbre qui l'empêche de tomber plus bas. Mais vous imaginez, 200 mètres, une voiture qui tombe, il y a peu de chances pour que quelqu'un soit en vie. Bon, la maman se réveille en premier. Elle est très, très lourdement, elle est blessée. Évidemment, elle regarde ce qui se passe avec son mari et ses enfants. Et elle voit que son mari a été éjecté à l'extérieur de la voiture. Et elle appelle son fils Yair, son fils Ariel et sa fille Merav. Donc Yair répond en premier, il dit oui, il est pas blessé, Ariel non plus. Et Merav, elle a été elle-même aussi éjectée. Bon, elle est très, évidemment elle souffre beaucoup, elle est comme je vous ai dit, blessée très sérieusement. Mais elle arrive à sortir quand même de la voiture. Et effectivement, elle voit que la partie arrière de la voiture est extrêmement abîmée. Or, la petite fille était assise à certains endroits. Il y a peu de chances pour qu'elle en soit sortie, mais finalement, elle retrouve sa fille indemne. Et finalement, donc, il se trouve que le bilan, c'est une maman très, très lourdement, on va dire, blessée, et les trois enfants indemnes. Par contre, le papa, il est niftar. Les passants, enfin ceux qui sont donc sur cette route, ont pu voir que cette voiture, elle perdait le contrôle. Ils ont appelé les secours et donc on va soigner pendant des mois et des mois la maman. Elle va finalement sortir de l'hôpital, indemne, bon, après de nombreuses opérations. Mais effectivement, elle se dit c'est quand même un miracle incroyable qu'on ait pu survivre, moi, mes enfants. Évidemment, malheureusement, elle a perdu son mari. Donc elle décide de changer de vie. Elle va d'abord elle habite aux États-Unis, donc elle va en venir en Israël. Elle va donc s'installer dans une ville, mais elle voudra que ses enfants rentrent dans une école pratiquante. Et c'est pour cela qu'ils font toujours ce voyage quotidien de Kiryat Ono vers Petah Tikva, parce qu'il y a là-bas une école qui accepte ces deux fils, donc les deux fils jumeaux, qui ont à peu près 9 ans, et qui l'acceptent et qui vont leur enseigner la Torah, la Mishnah, la Gemara. Alors Yair et Ariel, ils ont un bon niveau, et tout se passe bien, mais Ariel, il a des gros problèmes pour la Gemara. Alors la Torah ça va, la Mishnah, les matières profanes, il n'y a aucun souci, mais pour la Gemara, il y a des blocages, il n'arrive pas à comprendre, c'est compliqué. Et c'est si compliqué que lorsque un jour il dit à sa maman « Demain j'ai un examen de Gemara », franchement, je pense pas y aller, je connais rien, j'ai pas bien compris. Laisse-moi rester à la maison demain, j'ai pas envie d'avoir la honte. Et sa maman, quelque part, sans dire oui, ne dit pas non, elle comprend que voilà, c'est pas évident. Et le lendemain matin, Ariel, qui était allé se coucher en disant qu'il n'irait pas à l'école le lendemain, se lève très tôt. Il est là avec son sac, avec son tout ce qui est sa Gemara et tout le reste, et il dit j'y vais. Alors là, sa maman a dit, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Hier soir, tu disais, je n'irai pas, je connais rien, et tout d'un coup, ce matin, tu es prêt, dispo, et tu veux absolument y aller. Et Ariel répond quelque chose qui paraît incroyable, inimaginable. Il dit, papa est venu en rêve, il avait une barbe et des péotes, et il m'a dit, je vais étudier avec toi la Gemara. Alors dans mon rêve, j'ai dit à mon papa, qui je vous rappelle n'est pas décédé, dans mon rêve, je dis à papa, mais tu connais pas la Gemara, tu n'étais pas non plus pratiquant, comment tu vas m'enseigner la Gemara? Il lui répond, le père, c'est vrai, mais par ton mérite et le mérite de ton frère, Yaïr, j'étudie ce que vous étudiez en bas. Vous étudiez en bas la Gemara, ben moi j'étudie aussi dans le Gan Eden ce que vous étudiez vous. Et j'ai bien écouté ce que vous avez étudié, donc je sais tout. Donc pas de souci, je vais t'enseigner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il lui dit, effectivement, pendant toute la nuit, enfin une partie de la nuit, son papa révise avec lui la Gemara, lui explique, et à ce moment-là, il est totalement prêt pour l'examen. Et il ajoute à Ariel que papa m'a dit dans le rêve de te dire à toi, maman, que le chemin que tu as choisi est un chemin parfait. Continue à enseigner aux enfants la Torah. La maman, elle éclate en sanglots, elle ne sait pas du tout quoi répondre, elle dit c'est pas possible, c'est n'importe quoi, et elle a peur que Ariel il raconte n'importe quoi, qu'il va arriver à l'école, qu'il va passer l'examen et qu'il va le rater, et qu'il va être la risée de toute l'école. Donc elle ne sait plus quoi faire, elle veut l'empêcher d'y aller, mais finalement elle se dit, mais s'il a envie d'y aller, je ne peux pas l'empêcher. Bref, elle le laisse partir, et Ariel passe l'examen. Et il répond très bien à toutes les questions. Il a même une compréhension qui impressionne ses professeurs. À tel point que les professeurs appellent la maman en lui disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est vraiment très fort, votre fils Ariel, il a bien compris. Mais c'est bizarre parce que hier il ne le connaissait pas. Je lui parlais, je avais l'impression qu'il ne comprenait rien. Et là, en l'espace de quelques heures, le voilà, il est là, il comprend, il maîtrise. Qui c'est qui est le professeur extraordinaire qui a su lui enseigner cette Gemara si vite et d'une façon si parfaite? Et la réponse qu'il entend au bout du fil, ce sont des pleurs, des sanglots. Et la maman dit, je crois que vous n'y croirez pas du tout, c'est son papa qui lui est venu en rêve. Alors le professeur, il pense que, bon, il y a quelqu'un, une femme veuve un peu attardée qui trouve, il dit, je ne comprends peut-être pas de quoi elle parle. Évidemment, elle lui dit, sa maman, j'imagine que vous ne me croyez pas, mais demandez à Ariel, interrogez-le. Effectivement, le professeur interroge Ariel, qui lui dit, effectivement, papa est venu, il lui a dit, ce que tu étudies ici, moi j'étudie là-bas. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit dans l'école, parce qu'évidemment, qu'on le sache, que tout ce que nous allons enseigner à nos enfants, l'étude de la Torah de nos enfants, eh bien, après nos 120 ans, lorsqu'on sera dans un autre monde, on aura le mérite d'étudier ce qu'ils étudient. Donc autant leur apprendre à étudier pour que un jour, nous-mêmes, ça nous apporte une grande élévation de notre Neshama. De façon générale, les gens, ils cherchent à faire des choses, les Ilou Nishmat, à la mémoire des personnes disparues. Je pense que la première chose à faire, avant toute autre démarche, c'est déjà d'enseigner la Torah à ses enfants. Et de tout faire pour qu'ils soient des juifs pratiquants et réchamaïm. Et toute cette étude, eh bien, tout simplement, on sera les premiers bénéficiaires de cette étude. Et notre Neshama ne pourra que s'élever grâce à cela. Donc ça, c'est une très bonne raison de l'enseigner, mais ce n'est pas la seule, évidemment. La vraie raison, c'est que tout simplement, pour être un bon juif aujourd'hui, hier et demain, si on ne comprend pas pourquoi on est juif, qu'est-ce que c'est que les mitzvot, comment faire les mitzvot, les halachot, le sens des choses, le moussard, c'est-à-dire comprendre l'éthique, comment voulez-vous qu'on puisse rester un juif dans un monde où il y a de l'intelligence, il y a des sciences, de la philosophie, etc. C'est un monde de gens intelligents, des études poussées qui amènent les gens à des connaissances et à un niveau intellectuel élevé. Pourquoi est-ce que nous, lorsqu'on fait nos mitzvot, on les ferait dans l'ignorance, en faisant les choses à peu près, ou pas du tout, ou pas bien du tout? Et tout ça parce qu'on ne prend pas du temps pour l'étudier. L'étude de la Torah n'est pas réservée aux rabbins, aux barbus, etc. C'est réservé à qui? À personne. C'est ouvert à tous. Tout le monde doit étudier la Torah. Tout le monde doit trouver du temps, jour après jour, pour avancer, pour se documenter, comprendre. Et on ne peut pas déléguer qui que ce soit. Alors il y a ce qu'on appelle Yissachar et Zevulun. on va des fois soutenir des gens qui étudient, mais ça nous dispense pas chaque jour d'avoir ce qu'on appelle Kviut Itim la Torah, des moments fixes, des moments qu'on a fixés pour étudier la Torah. Ça, c'est une obligation pour chaque juif, même un juif qui est dans le business, qui est très pris, etc. Il doit se trouver du temps chaque jour pour étudier la Torah. Voilà comment nous appelle le peuple du livre. Et c'est vrai, on est tout le temps avec des livres, et en se disant que ce n'est pas surtout pas réservé à une élite, mais la Torah, elle est monachat pekeren zavit, posée dans un coin, et tout celui qui veut peut prendre le Keter Torah, la couronne de la Torah, et même s'il devient pas le, il n'a pas la couronne de la Torah, mais au moins des connaissances minimales, nous devons tous les avoir, nous tous les apprendre, et surtout vouloir absolument que nos enfants les aient aussi. Il faut le faire avec intelligence, avec doigté, sans les forcer, mais en leur donnant envie, etc., etc., et de trouver des bons professeurs qui savent leur donner envie, parce que effectivement, c'est notre devoir de transmettre la Torah. Le Mont Sinaï, c'était hier. Pourquoi c'était hier? C'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 3000 ans. Non, c'était hier parce qu'en fait, finalement, génération après génération, le peuple juif a transmis la Torah à ses enfants. Et si vous voulez vous demander quel est le secret de la pérennité du peuple juif, vous pouvez interroger Vladimir Poutine. Ouais, j'ai bien dit Vladimir Poutine. Parce que, il me s'est arrivé avec le Rav Yitzhak Yosef, l'actuel grand rabbin d'Israël, m'a dit lui-même... qui était chez Vladimir Poutine, qui lui a demandé quel est le secret de la pérennité du peuple juif. Et lorsque le Rav Yitzhak Yosef avait essayé de réfléchir pour savoir comment expliquer à Vladimir Poutine, c'est de comment répondre à cette question, Vladimir Poutine lui a dit, Monsieur le Grand Rabbin, j'ai la réponse. C'est la Torah. Voilà. C'est la réponse de Vladimir Poutine, Grand Rabbin d'Israël. La Torah, c'est le secret de la pérennité du peuple juif. Donc si c'est le secret de la pérennité, si nous voulons que nos juifs restent des bons juifs, il y a une solution, leur enseigner la Torah. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous transmettre, et je pense que c'est le bienvenu dans la paracha de Yitro, une paracha où on parle de Matan Torah.
Bien, c'est très beau, Rav Gay, on est très impressionné par cette histoire. En plus, si vous connaissez personnellement les gens...
Alors, je ne connais pas personnellement, je voulais juste dire que je connais leur adresse, ils habitent à Ramat El-Hanan. C'est-à-dire, c'est un quartier à Bnei Brak. Il y a deux frères jumeaux, Ariel et Yair, mais je peux pas dire que je connais vraiment leur adresse, mais je peux les retrouver parce qu'il y a suffisamment d'indications que je n'ai pas citées dans mon intervention. Mais on peut les retrouver, Bnei Brak, Ramat El-Hanan, c'est un quartier que je connais bien. Deux frères jumeaux, on peut les trouver.
Eh bien, magnifique. Rav Gay, je vous remercie et je vous souhaite Shavua Tov.
Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. À toutes et à toutes, excellente soirée, Shavua Tov. Et vous retrouvez tout de suite du côté de chez Schwartz, une émission qui vous est présentée par Sandrine Schwartz.
Shalom leboy na boy, im Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy bay.